الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Nous allons parler maintenant de l'invocation du Qunut dans les prières obligatoires. Premièrement, le Qunut dans la prière du Fajr. Les savants ont divergé sur le fait de faire la dua du Qunut dans la prière du Fajr. Et il y a en cela quatre avis. Premièrement, que c'est une sunna très recommandée, habituelle. C'est recommandé de le faire constamment. Ceci est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Al-Shafi'i, rahimahumullah. Il s'appuie sur cela, sur le hadith de Bara ibn Azib, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faisait le qunut dans le subh et dans une version, et le maghrib. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, et Tirmidhi, et Abu Dawud, et Nasa'i. Et la divergence en fait pour la parole où il a été rajouté est dans le maghrib. Il y a une divergence entre les savants du hadith sur un des rapporteurs qui s'appelle Amr ibn Murrah, qui a rajouté justement ce surplus dans le hadith. Le hadith aussi de Anas. Alors on a demandé à Anas radiallahu anhu, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le qunut dans le subh? Il a dit oui. On lui a dit, est-ce qu'il a fait cela avant l'inclinaison? Il a dit non, après l'inclinaison, un petit moment après l'inclinaison. C'est rapporté par le Bukhari et Muslim. De même qu'ils sont basés sur un hadith de Abu Huraira, qui est rapporté aussi par le Bukhari et Muslim, et c'est la version de Muslim donc, que nous allons citer, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait quand il finissait la lecture de la prière du Fajr, et après avoir dit Allahu Akbar et levé sa tête, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, puis il disait alors qu'il était debout cette invocation, Allahumma anji al-Walid, ibn al-Walid, Salamat ibn Hisham, وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم لعن لحيان ورعلان وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. Puis il nous a été rapporté, c'est la suite du hadith, c'est Zuhri qui rapporte cela, qu'il avait laissé cela quand Allah تبارك وتعالى a révélé ces versets: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Tu ne possèdes rien de leur affaire, qu'Allah leur pardonne, qu'il accepte leur repentir ou qu'il les châtie, car certes, ils sont injustes. Le quatrième hadith sur lequel ils se sont appuyés, qui est rapporté par le Bukhari, selon Ibn Omar radiallahu anhuma, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lever sa tête après le recours, dire « Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd » puis dire « Ya Allah, maudit un tel et maudit un tel » jusqu'à qu'Allah lui a révélé le même verset que nous avons cité précédemment. Donc, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le qunut après se lever du rukou'. Le fait qu'ils disent « kana yaf'alu dhalik », c'est-à-dire « il faisait », c'est comme si ça prouvait que c'était constamment. Et ils disent le fait qu'il a délaissé cela quand le verset a été révélé, ce n'a contredit pas le fait de l'instauration de faire la dua de qunut au fajr, pour deux choses. Car premièrement, cela, c'est une parole de Zuhri, comme ça a été rapporté dans la parole de Abi Huraira, donc c'est munqati', donc c'est rompu, et ce n'est pas véridique. Et si on disait que c'était véridique, ça voudrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le fait de maudire tel et tel, et non pas le fait de faire la dua dans le fajr. Ils se sont basés aussi sur un hadith, mais ce hadith est faible, c'est un hadith munkar, où il aurait été rapporté que Anas a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas arrêté de faire le qunut, la dua du qunut dans la prière du Fajr, jusqu'à qu'il ait quitté ce bas monde. Et comme nous l'avons cité auparavant, ce hadith est faible. Le deuxième avis parmi les savants, donc le premier on a dit qu'il disait que c'était une sunna très recommandée, sunna mu'akkada. Le deuxième avis, c'est que le qunut dans la prière du Fajr, ou dans toutes les autres prières, c'est abrogé, et c'est une bid'a, c'est une innovation. Et ça, c'est l'avis de Abu Hanifa. C'est le madhab de Abu Hanifa, rahimahullah. Il s'est basé pour cela sur un hadith dont la chaîne de transmission est véridique, qui est rapporté par Tirmidhi, et Ibn Majah, et Ahmed, où Abi Malik al-Ashja'i a dit, « Oh mon père, tu as prié Derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, et Omar, et Othman, et derrière Ali ibn Abi Talib, ici à Koufa, près de 5 années. Est-ce qu'il faisait le qunut? Il a dit non, oh mon fils, ceci est une innovation. Ce hadith, les savants ont répondu sur ce hadith, que le père de Abi Malik, Tariq ibn Ushaym, radiallahu anhu, c'est quelqu'un qui a rapporté très peu de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas connu pour le fait d'être resté constamment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne serait pas étrange que certains actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui soient cachés, le fait qu'il ne les a pas vus, comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qunut. Alors que parmi les grands compagnons qui étaient tout le temps avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait pas mal qui ignoraient certaines règles de l'islam. Alors que dire de ce sahabi radhiyallahu anhu qui est très peu resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été affirmé par plusieurs chaînes de transmission que c'est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qunut. Et la personne qui a une science supplémentaire, c'est une preuve par rapport à celle qui ne sait pas. De même qu'il a été rapporté clairement et d'une chaîne de transmission véridique que les 4 califes ont déjà fait le qunut dans les prières obligatoires. Ils se sont aussi basés sur un autre hadith pour dire que le qunut est abrogé et que c'est une bid'a. Ce qui aurait été rapporté de Umm Salama, qu'elle aurait dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait interdit de faire le qunut dans le fajr. Et ce hadith, c'est un hadith faible qui a une chaîne de transmission vraiment très faible et très qu'on doit complètement délaisser. De même, ce qui aurait été rapporté par Ibn Mas'ud, qu'il aurait dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait fait le qunut qu'un seul mois, qu'il n'a jamais fait le qunut avant ça et après ça. De même, ceci est un hadith très faible sur lequel nous ne pouvons pas nous appuyer. De même, un autre hadith qui est faible, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Abdullah ibn Omar a dit, c'est une bid'a, c'est une innovation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait qu'un mois puis il l'a délaissé. Donc, les 3 derniers hadiths qu'on vient de citer sont faibles, on ne peut pas s'appuyer sur ça pour dire que c'est une bid'a. Mais, par contre, ça a été rapporté dans le Moussannaf de Abd al-Razzaq, avec une chaîne de transmission véridique, que Abdullah ibn Omar a dit, je n'ai jamais témoigné que quelqu'un l'a fait. Et de même, avec une chaîne de transmission véridique aussi, dans le Moussannaf de Abd al-Razzaq, que Abdullah ibn Mas'ud ne faisait pas le qunut dans la prière du Fajr. De même, qu'ils se sont basés sur le fait que le fait de délaisser le qunut dans les hadiths qui sont précédents, comme Abi Huraira, ça prouve que auparavant c'était instauré, puis ça a été abrogé par ces hadiths. Et on a déjà répondu à cette parole-là. On ne peut pas aussi prouver que cela a été abrogé sans preuve. Pour dire qu'une règle est abrogée, il faut des preuves. Donc, ou bien le prophète Sarasim le dit clairement, ou bien il y a une date antérieure des actes, c'est-à-dire qui sont passés, puis une autre date ou un événement qui prouve l'interdiction qui est venue, ou bien l'abrogation qui est venue à une date après les actes qui ont été faits précédemment. Le troisième avis, c'est que le qunut ne se fait que quand il y a des situations affligeantes qui touchent les musulmans. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et c'est l'avis des savants du madhhab Hanafi qui sont venus plus tard. Ils se sont basés sur un hadith, le hadith d'Anas, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le qunut, c'était seulement, il ne faisait pas le qunut seulement s'il l'invoquait pour des gens ou contre des gens. Ce hadith, il y a plusieurs muhaddithines qui ont vu que sa chaîne de transmission est acceptable et qu'il y a d'autres hadiths qui montrent cela. Surtout, en fait, tous les hadiths où on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua, on voit que c'était toujours pour un peuple ou contre un peuple, comme aussi ça a été rapporté des califes bien guidés et orthodoxes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien que certains savants du hadith voient que ce hadith isnad layyin. De même que Ibn Adi a refusé ce hadith car il voit qu'il y a dedans Mohammed ibn Marzouq. Il a pris seul cette parole de Mohammed ibn Abdullah al-Ansari pour Ibn Adi. Ce hadith n'est pas acceptable, il ne l'a pas pris. Le quatrième avis, c'est qu'il est permis des fois de le faire et de le délaisser. Ça, c'est l'avis للإمام الثوري، ابن جرير الطبري، ابن حزم، ابن القيم. Ils disent, on voit avec toutes les versions qui ont été rapportées, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait des fois, et le délaissait des fois, pour enseigner à sa communauté qu'ils ont le choix de le faire et de le délaisser. Alors les gens du hadith, comme a dit Ibn al-Qayyim, ils sont au juste milieu entre ces deux-là, c'est-à-dire entre ceux qui l'ont interdit complètement et ceux qui l'ont recommandé complètement. Et ce sont ceux pour lui qui sont plus proches du hadith parmi tous les groupes, car ils font le qunut quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et ils le délaissent quand il l'a délaissé. Donc ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il fait et ils le suivent dans ce qu'il délaisse. Donc en le faisant de temps en temps et le délaissant de temps en temps, ils vont dans cela. Alors ils disent, le faire c'est sunna et le délaisser c'est sunna. Mais avec cela quand même, on ne réprime pas ceux qui le font constamment et on ne dit pas que c'est détestable ni une bid'a de le faire. Et on ne dit pas que celui qui le fait il est contraire à la sunna. De même que les gens de la sunna ne critiquent pas celui qui le fait quand il y a des situations affligeantes qui touchent les musulmans. Et ils ne voient pas que le délaisser c'est une bid'a, ni le faire c'est une bid'a plutôt. Alors celui qui a fait le qunut, il a bien fait, et celui qui l'a délaissé, il a bien fait. Ça c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Quel est l'avis le plus juste dans cette question ? L'avis le plus juste, d'après ce qu'on a pu lire des savants, et la meilleure manière de répondre et de lier entre tous ces hadiths, il va se jouer sur le hadith de Anas, sur lequel il y a eu divergence en fait sur sa véracité. Ceux qui voient qu'il est sahih, il est véridique, ils vont dire tous ces hadiths que l'on vient de citer sont résumés par le hadith de Anas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait le kunut que pour faire des invocations pour des gens ou contre eux, des gens. Donc, on le fait quand les musulmans sont touchés par une situation affligée pour eux ou quand des ennemis de l'islam les attaquent ou leur font du mal contre les ennemis de l'islam et des musulmans. Et même si on ne prend pas ce hadith, on voit à travers tous les hadiths qui sont cités qu'à chaque fois, en fait, les raisons et les invocations pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, que c'est toujours dans ce cas-là. Ça rentre dans le cadre de ce hadith. D'ailleurs, il a été rapporté par une chaîne de transmission véridique dans le Moussanaf de Abd al-Razzaq que Omar ibn al-Khattab faisait aussi cette invocation. وَانْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اللَّهُمَ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَىٰ قَوْلِهِ اللَّهُمَ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Donc on voit que Omar ibn Khattab a fait du'a contre les injustes parmi les mécréants et que c'est quand il y a un besoin et une situation qui touche les musulmans ou quand ils ont besoin d'invocation quand ils sont dans le djihad qu'on fait cette dua du qunut. Bien que on insiste bien sur le fait que l'on taxe pas d'innovateur celui qui nous contredit dans cette question-là, car comme on l'a vu précédemment, c'est une question dans laquelle la divergence est acceptable et on ne critique pas non plus celui qui le délaisse complètement. Ça fait partie de l'ignorance de la religion d'Allah de faire cela. D'ailleurs, l'imam Ahmed, rahimahullah, quand on lui a demandé à propos de gens qui faisaient le kunut à Bassora, à Basra, que penses-tu de la prière derrière eux ? Il a dit, les musulmans prient derrière celui qui fait le kunut et celui qui ne fait pas le kunut. Comme l'a rapporté Ibn al-Qayyim. Donc c'est Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui a rapporté cette parole de l'imam Ahmed dans son livre, As-salat wa hukmu tarikiha. Après avoir parlé du kunut dans le Fajr, nous avons dit qu'il se faisait quand les musulmans sont affligés par une situation ou quand ils sont dans le djihad ou quand des ennemis de l'islam font du mal à l'islam, c'est le moment où il faut faire la dua du kunut dans le fajr. Et elle se fait après le recours, comme il a été vu dans tous les hadiths auparavant. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants et une version de l'imam Malik. Bien que l'avis le plus connu de l'imam Malik, c'est de le faire avant le recours et non pas après le recours, car cela a été rapporté de certains sahaba comme Omar, Ibn Abbas et Ali. Si quelqu'un le fait, ce ne sera pas le plus juste, mais la sunna, c'est bien de le faire après le recours dans la dernière rak'at du Fajr. De même que cela ne se fait pas seulement dans la prière du Fajr. Il est légiféré de faire la dua du kunut dans les 5 prières s'il y a une situation qui touche les musulmans. Cela se fait toujours dans la dernière unité de prière après la dernière inclinaison et en levant les mains, comme on va le voir. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, Ibn Jarud, Ibn Khuzaymah, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, qui est un hadith bon et acceptable. Abdullah ibn Abbas a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a fait le kunut un mois d'affilée à la prière du dhuhr, de l'asr, du maghrib, de l'isha et du subh. Après toute prière, quand il finit de dire Sami Allahu liman hamida, dans la dernière raka'a, il faisait des invocations contre certains de Bani Sulaym et aussi contre Ra'l et Dhakwan et Asiya. Et les croyants derrière lui disaient Amin. Donc ce hadith prouve bien que cela est légiféré et instauré de faire la dua du Qunut dans les cinq prières, bien que, comme cela a été rapporté dans plus de hadiths en détail, la prière où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus le Qunut quand il y avait un besoin, c'est celle du Fajr et celle aussi du soir. Mais celle du Fajr en priorité, celle qu'il faisait le plus. Et cela a été rapporté pour Dhuhr et l'Asr comme dans ce hadith, mais dans les autres situations qui sont arrivées, en général, ce sont plus dans les prières à voix haute, et surtout celle du Fajr où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la dua du Qunut. Par contre, il n'a été rien rapporté concernant la prière du Jumu'ah, donc il n'y a pas de dua du Qunut dans le Jumu'ah. Certaines règles liées au Qunut, c'est que l'imam lève la voix pour faire la dua du Qunut, il ne le fait pas à voix basse, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a levé, comme ça a été rapporté dans tous les hadiths qu'on a vus avant de Anas, Abu Huraira, Ibn Abbas. Et que les gens derrière lui disent Amin, comme on a vu dans le hadith de Ibn Abbas auparavant. De même, selon Abi Uthman, il a dit j'ai prié derrière Omar ibn al-Khattab. Il a lu à peu près 200 versets de l'Baqara, puis il a fait l'invocation du Qunut après le recours. Il a levé les mains jusqu'à ce que j'ai vu la blancheur de ses aisselles. Et il a élevé la voix dans son invocation jusqu'à que les gens l'entendent de derrière les murs. De même, comme on a dit, l'avis du Jumhur, de la majorité des savants, c'est de lever les mains pour faire les invocations, comme on a vu dans ce hadith. Et ça a été rapporté donc de Omar et de Ibn Mas'ud et d'autres parmi eux. Et comme c'est venu dans le hadith de Anas, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prié et il a levé les mains et il a fait des invocations contre eux. Et ça, c'est rapporté par Al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission acceptable. Et l'imam Malik, lui, il dit qu'on ne lève pas les mains, mais le premier avis est le plus juste. On pourra parler en détail, Inch'Allah, d'autres règles liées à l'invocation que l'on dit dans le Qunut, dans la prière du Witr, où l'on va pouvoir parler en détail, Inch'Allah, d'autres règles liées au Qunut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, rabbil alamin.